18-20. Fabienne Synthèse sur France Inter.
C'est Jean-Marc qui est là tous les jours. Arrangez-vous entre vous, Julia. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, le monde à l'envers, Jean-Marc. Bonsoir à vous d'abord.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Emmanuel Macron et Angela Merkel ont donc signé en fin de matinée ce fameux nouveau traité franco-allemand. Il y a eu beaucoup de débats ces derniers jours à l'initiative de l'extrême droite sur le fait que ce traité allait beaucoup trop loin, abandon de souveraineté, etc. Vous nous affirmez qu'on peut parfaitement soutenir l'inverse, que ce traité ne va pas assez loin. Et c'est votre monde à l'envers.
Tenez une petite archive pour commencer. Je vous montre la photo ici en studio. Vous la trouverez sur le site de France Inter. Vous reconnaissez Fabienne?
C'est une accolade.
De Gaulle et Adenauer en 1963, signant le traité de réconciliation franco-allemand. Un sacré geste politique. Et maintenant, voici maintenant le traité signé ce matin, 56 ans plus tard. Voilà, je voulais apporter aussi 13 pages. Et franchement, ça souffre de la comparaison. Un an et demi de négociations pour en arriver là. Le journal allemand Der Spiegel titre aujourd'hui « Grosse Pläne, kleine Schritte ». Traduction, grand projet, petit pas. On est loin des grandes envolées lyriques sur l'Europe d'Emmanuel Macron il y a près de deux ans. Qu'en reste-t-il dans ces 13 pages? Bien peu de choses. Le budget de la zone euro, toujours dans un carton. L'Allemagne ne veut pas s'engager trop loin dans la solidarité. L'uniformisation d'un niveau minimum de droits sociaux, aux oubliettes. Un projet commun sur l'accueil des migrants, inexistant. Une ambition conjointe sur les énergies renouvelables. Rien de concret, juste un propos général. La France est frileuse là-dessus. Il y a bien quelques petits pas, c'est vrai, sur l'harmonisation du droit des affaires ou la meilleure coopération entre les zones frontalières. Et bien sûr, la réaffirmation de l'amitié franco-allemande, ce qui n'est pas rien. Mais on a surtout le sentiment que tout a été revu à la baisse. C'est un traité service minimum.
Mais alors attendez, c'est exactement l'inverse de ce qu'on entend depuis quelques jours.
Et c'est ça qui est extraordinaire. Hein. Ce qu'on entend, ce sont les fausses affirmations diffusées tous azimuts par l'extrême droite. Si on les écoute, on a l'impression que ce traité est une énormité, une intégration des deux pays sans précédent, une reddition de la France en race campagne, etc. Alors on va quand même le répéter, cette présentation du traité, c'est du super pipeau, de l'intox de A à Z. Non, il n'est aucunement question de livrer l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Il s'agit seulement d'une meilleure collaboration transfrontalière. Non, il n'est aucunement question que la France donne à l'Allemagne son siège au Conseil de sécurité. Il s'agit seulement de militer pour une réforme du Conseil qui, de toute façon, n'aura sans doute jamais lieu. Non, l'accord de défense ne change rien dans le cadre de l'OTAN. La protection mutuelle était déjà prévue. Non, il n'y a pas d'atteinte aux souverainetés nationales, mais des accords, je cite, « dans le respect des règles constitutionnelles des deux États ». Alors, est-ce qu'il faut être surpris par toutes ces élucubrations? Évidemment pas. Après le Brexit, après Trump, on devrait savoir que tout accord international, en particulier le terrain favori des fausses informations, et qu'à l'ère des réseaux sociaux, plus c'est gros, plus ça marche. Le plus surprenant, c'est surtout que l'Élysée soit surpris.
Sauf qu'en attendant, c'est quand même sur cette idée-là d'un traité qui irait trop loin que tout le débat s'est concentré.
Oui, c'est fascinant, je me répète. Ce traité est plutôt vide et on débat sur le fait de savoir s'il est trop plein. Tout est dit, en fait, sur le fait que les termes du débat public sont désormais fixés par l'extrême droite. C'est elle qui donne le là et contraint le reste de la classe politique, en France comme ailleurs en Europe, à réagir sur ces sujets à elle. Bien joué. À l'approche des élections européennes, on pourrait parfaitement débattre, à l'inverse, sur plus d'intégration européenne en termes de politique économique et sociale ou d'immigration. Mais non, on débat sur l'inverse, sur la défense de la souveraineté nationale. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'Europe en disant ça. Je fais juste un constat, c'est-à-dire que les promoteurs de l'intégration européenne, et il y en a, n'osent plus parler en positif. Ils disent seulement « ne vous inquiétez pas, c'est pas une atteinte à notre souveraineté nationale ». Il y a bien là quand même un renoncement à parler de l'Europe comme d'un projet enthousiasmant, voire salvateur, face à la désertion du protecteur américain et à l'affirmation de la Chine et de la Russie. Les pro-européens sont cornérisés, ils sont sur la défensive, ils ne séduiront jamais personne comme ça. Logiquement, une campagne pour des élections européennes, ça devrait déclencher un grand débat européen. Et ben chez nous, ça démarre sur fond de grand débat national. Il n'y a pas de hasard.